Alors, comme vous avez peut-être été un peu surpris, ce n'est pas les lectures du dimanche de l'année C, mais nous avons pris donc les lectures de l'année A pour accompagner Amélie dans son cheminement vers le baptême. Et ça sera ainsi les deux dimanches qui vont suivre. C'est traditionnel dans l'Église, donc la Samaritaine, dimanche prochain l'aveugle né, le dimanche suivant Lazare, la résurrection de Lazare. Parce qu'à chaque fois, ce sont des rencontres déterminantes avec Jésus. Alors, cette rencontre avec la Samaritaine a lieu près d'un puits. Alors, ce n'est pas fortuit. Vous savez que les puits, peut-être moins en Picardie, on souffre moins de la soif, mais en Terre Sainte, donc, les puits ont de l'importance. C'est souvent là qu'il y a des rencontres qui peuvent être déterminantes pour toute une vie, hein. C'est là qu'Isaac a rencontré Rebecca, que Jacob a rencontré Rachel, que Moïse a défendu des femmes qui abreuvaient leurs troupeaux et c'est ainsi qu'il va se marier avec Sipora. Mais donc c'est comme le lieu où Jésus vient nous rencontrer. Alors, cette rencontre qui est celle d'Amélie, mais aussi la nôtre, après celle de la Samaritaine, je distinguerai trois moments dans cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. D'abord, le moment où elle ouvre son cœur. Un deuxième moment où elle accepte de mettre sa vie dans la lumière de Jésus, ou en tout cas, Jésus projette la lumière de sa vérité sur sa vie. Et puis, le troisième moment où elle entre en relation avec Dieu par la prière, on va dire. Et bon, la conclusion, c'est que finalement, elle va en parler à beaucoup d'autres et elle devient un disciple missionnaire, comme aime le dire le pape François. Alors, la première chose qui est vraie pour la Samaritaine, mais qui est vraie aussi pour nous avec Dieu, c'est que Jésus ne s'impose pas. Il n'aborde pas la Samaritaine par le haut, ou il ne nous impose pas son amour. Il désire entrer en communion avec nous, ce qui est différent. Et ça suppose une certaine réciprocité. Alors, comment Jésus s'y prend? Simplement, déjà par sa faiblesse, parce qu'il est fatigué. Donc, il est assis près du puits. Et donc, il est en position de faiblesse. Et donc, il demande, il se met dans une situation de demander quelque chose à cette femme. Donne-moi à boire. C'est intéressant parce que dans notre vie, Dieu nous tend souvent des perches comme ça. Alors, on les saisit ou on ne les saisit pas. Après, c'est notre liberté, hein, mais encore une fois, Jésus ne nous oblige pas, mais il nous tend des perches de mille manières. Et ça passe souvent par des gens qui expriment un besoin, par les pauvres. Il fait appel à notre bon cœur, en quelque sorte aussi. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe dans le sens où cette femme accepte de donner de l'eau à Jésus. Et donc, déjà, il y a quelque chose qui s'ouvre en elle. Ça manifeste une certaine ouverture. Elle n'est pas fermée. Et c'est cette bonté par laquelle Jésus va entrer. Alors, au début, il y a une sorte de quiproquo, quand même, l'utilisait Saint Jean dans son évangile. Et Jésus amène la femme plus loin. C'est pas simplement de l'eau matérielle, mais c'est une eau qui nous désaltère plus profondément. Alors, cette eau et cette soif, Saint Jean en parle à d'autres reprises dans son évangile, au chapitre 7, par exemple. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, il boira. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Donc, cette eau est symbole de l'esprit. Elle est symbole aussi de l'amour de Dieu. Dans la deuxième lecture, on voit Saint Paul qui écrit aux Romains: l'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà, c'est cet amour répandu dans nos cœurs. Et finalement, c'est de ça qu'elle avait soif, cette femme. On voit qu'elle n'était pas vraiment comblée par l'amour des hommes, hein. Elle en a eu cinq et puis le sixième n'était pas son mari. Donc voilà. Mais donc, Jésus met à jour cette soif de la femme, finalement, qui est la soif d'être aimée vraiment totalement, ce qu'aucune créature humaine ne peut parvenir à faire. Et seul Jésus peut combler pleinement cette soif. Deuxième moment, alors là, elle est prête. Et il y a un virage, alors on l'a pas lu dans... J'ai pris la lecture brève, mais c'est un virage important dans cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Au moment où enfin elle demande l'eau vive, Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ». Ça jette un peu un froid. « J'ai pas de mari ». Ah oui, oui, oui. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Alors, au premier abord, ça peut paraître un peu rabat-joie de la part de Jésus, mais Jésus n'est pas bonasse. Jésus sait être exigeant. Hein, pas pour nous faire du mal, bien sûr, mais parce que nous formons un tout. Et si on veut accueillir Dieu, on doit faire aussi la vérité sur notre conduite morale. Nos péchés ne sont pas un problème pour Dieu à partir du moment où on accepte de les reconnaître, de les regretter et de désirer changer. Alors, l'eau que Jésus propose, ce n'est pas seulement l'eau qui désaltère, c'est aussi l'eau qui purifie. Cette eau, elle symbolise pas seulement l'amour de Dieu, mais elle symbolise aussi sa miséricorde. Mais pour ça, il faut accepter d'être lavé par cette eau. Et c'est ce qui advient le jour du baptême aussi. Cette eau nous lave. C'est un symbole d'une réalité plus profonde qui se passe pendant le baptême. Mais c'est ce qui est dit aussi, ce que saint Paul dit quand il parle encore. C'est un contexte aussi d'époux et épouse, hein, dans l'épître aux Éphésiens. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Alors ce virage dans le dialogue entre la Samaritaine et Jésus est important parce que, voilà, où en est notre vie? Et quelquefois, il y a des gens qui ont l'impression de perdre la foi, mais peut-être qu'il faut regarder aussi, est-ce qu'ils ont fait un peu trop de concessions pour vis-à-vis de la morale, est-ce qu'ils vivent les exigences de l'Évangile, parce que ça forme un tout. La foi, elle concerne pas seulement notre cœur ou notre tête, mais dans la foi, on remet notre vie entre les mains de Jésus. Alors ça, c'est un deuxième moment important dans cette rencontre. Et le troisième et dernier moment que je vais évoquer maintenant, c'est que, alors après que Jésus lui ait dit « Ah oui, tu as eu 5 mariés et l'homme avec qui tu vis, c'est pas ton mari. » Alors la femme lui dit « Ah Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Au premier abord, on pourrait se dire, c'est pas très agréable quand on nous dit ce qui va pas dans notre vie, donc elle change un peu le sujet. On va parler de l'adoration, on arrête de parler de ma vie. Elle est sans doute un peu gênée aux entournures. Mais je pense que sa question est plus profonde parce que d'ailleurs, quand elle va voir les gens de sa ville, elle leur dit « Mais venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Donc, c'est pas une échappatoire à ce moment-là de sa part, même si à première vue, ça pourrait l'arranger. Elle serait à même de dire ce début du psaume 138 que vous connaissez sans doute. « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. » Tu sais, quand je m'assois, quand je me lève, de très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Et dans la suite de ce psaume, c'est pas un psaume où ce serait un Dieu jaloux, scrutateur, là, qui avec un regard accusateur. C'est pas ça, c'est un Dieu qui nous aime. Mais justement, tout est devant sa lumière, mais pas pour nous condamner, pour nous sauver. Alors, sa question sur l'adoration, c'est pas pour éviter le coup en quelque sorte, c'est une vraie question. Et c'est intéressant de voir comment Jésus répond, parce que Jésus n'est pas relativiste, hein, il dit, Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais c'est intéressant parce que Jésus n'est pas relativiste et en même temps, il ne veut pas se laisser bloquer en quelque sorte par ses querelles. Et du coup, il lui propose d'aller plus loin. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et alors, c'est là qu'il se présente comme le Messie, celui qu'on appelle Christ. Alors ça, encore une fois, ces évangiles sont choisis pour accompagner les catéchumènes dans leur parcours. Donc il y a cette rencontre de Dieu, il y a aussi cette conversion, on va dire. Et puis, il y a ce moment important aussi où justement de prière, d'intimité avec Dieu, d'adoration. Bien sûr, la liturgie et la théologie sont importantes, mais elles ne suffisent pas pour devenir chrétien. On peut apprendre tout son catéchisme, ça ne suffit pas. Il y a besoin vraiment de cette rencontre personnelle avec Jésus. Et ça se fait dans la prière, alors avec les différentes formes de prière, où on s'émerveille devant Dieu, où on lui rend grâce, où on peut tout lui demander, ou aussi on lui soumet notre volonté, puisqu'on se remet entre ses mains. Alors c'est important aussi pour nous, pour ceux qui sont déjà baptisés, que ce lien avec Jésus soit vivant. On ne peut pas faire l'économie de la prière, c'est cette adoration en esprit, en vérité. Et donc pour conclure, on voit cette femme. Alors les apôtres arrivent au moment où on atteint le sommet de cet échange entre Jésus et la Samaritaine. Elle s'en va voir les gens et justement elle devient témoin. « Ah, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » J'aime bien la manière dont elle présente les choses parce que elle laisse résonner une question dans l'esprit des gens. Ne serait-il pas le Christ ? Elle ne les force pas à croire. Elle leur donne envie de croire. Elle met en œuvre la consigne, vous vous rappelez sans doute, d'un possédé qui est délivré par Jésus. Et alors la consigne que Jésus lui donne, c'est « rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde ». Voilà. Alors, c'est aussi ce que nous dit le pape François. Il revient souvent sur ce thème de disciple missionnaire. On ne peut pas être un disciple si on n'est pas missionnaire. Ça revient de manière récurrente chez lui. C'est ce don de Dieu qu'elle a reçu, elle est appelée à le communiquer. Et notre foi se renforce en la donnant. Alors prions les uns pour les autres pour que dans notre chemin de carême, voilà, nous soyons renouvelés dans cette foi que nous allons professer à nouveau pendant la vigile pascale et que le Seigneur accompagne Amélie dans son parcours. Amen.